soccer avec Nilton George. Nilton George du podcast Cannes Foot Club, le segment qui botte la compétition.
Vous savez, c'est la dernière semaine complète avant le temps des fêtes et on est en mode bilan ici à la station. On est en mode bilan au Gonzo Show. On va en faire, on en a parlé hier avec le meilleur athlète québécois de la décennie. Et je me suis dit qu'on allait faire l'exercice avec certains collaborateurs cette semaine, entre autres Nilton qui est avec nous. Nilton, comment vas-tu?
Salut Gonzo, ça va bien toi?
Ça va bien, c'est un défi colossal que celui que je vous demande cette semaine, hein?
Oui, oui, tu sais, j'ai de la misère à faire un bilan d'année, imagine une décennie.
C'est pour apprendre à connaître nos différents collaborateurs, tu comprends? On voilà. En apprend un peu plus sur le plan personnel, mais je dis défi colossal. En fait, j'ai vous lancé un mandat aux différents collaborateurs en vous demandant votre top 5 dans le sport que vous couvrez. Et ça peut être joueur, ça peut être équipe, ça peut être entraîneur, ça peut être événementiel. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'y aller d'un consensus et de dresser les 5 moments ou le top 5 de cette décennie?
Mais tu vois, on peut prendre ça de différents angles. Puis j'ai essayé de prendre l'angle où, quand tu m'avais écrit, tu m'as demandé les événements marquants. Puis je trouvais que c'est un bel angle, ça. Parce que, tu sais, on peut dire les meilleurs joueurs, les meilleures équipes. Tu sais, on peut avoir un certain consensus. Mais ce qui est le fun à voir, c'est qu'est-ce que, selon nous, va avoir marqué la décennie de 2010? Qu'est-ce que dans 20, 30 ans, on va revenir comme sujet qui a été marquant lors de cette décennie-là. Puis j'ai essayé d'y aller un peu à gauche, à droite, puis on va s'entendre, là. C'est pas complet. Il manque plein de domaines, mais j'ai essayé d'y aller le plus large possible.
Ouais. Il va manquer, on ferait l'exercice avec tous les sports, puis il manquerait quelque chose, parce que, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts non plus, qui a les mêmes intérêts. Puis c'est très large, la planète soccer aussi. Et tu vas débuter avec, pour toi, le coach de la décennie.
Oh oui, c'est sûr que dans les années à venir, quand on va parler des années 2010, on va parler du coach qui a probablement eu un impact mondial sur la façon de coacher, c'est Pep Guardiola. Il est devenu coach en 2008, en sortant de la réserve de Barcelone, mais il est devenu vraiment la référence du coaching de la décennie. Il a remporté plus de 20 titres, il est devenu recordman pour le nombre de victoires consécutives en Espagne avec 16 victoires. Il a fait la même chose en Allemagne avec 19 victoires consécutives au Bayern. Et une fois rendu en Angleterre, il a fait encore le nouveau record en Angleterre avec 18 victoires consécutives. Et il s'est devenu le prophète contemporain, si on veut, du jeu qu'on a appelé le tiki-taka, qui est un jeu de possession à l'outrance, avec des passes courtes. Et c'est devenu tellement un dogme dans le foot moderne que c'est probablement durant cette décennie-là qu'on a amené régulièrement la stat de possession. Tu sais, avant, ouais, je te dirais, il y a 20 ans, on n'en parlait pas tant que ça. Déjà, le sport, c'est pas un sport de statistiques, mais maintenant, après chacun des matchs, on parle du temps de possession comme si ça devient une espèce de preuve de domination. C'est tellement devenu une obsession pour certains coachs qu'on oublie, tu sais, de marquer des buts. Puis il y a eu bien sûr des contre-tactiques. Mourinho a apporté une différente stratégie pour battre ça. Lui, il était pas intéressé à avoir le ballon, il était intéressé à avoir une possession utile, tandis que Guardiola, qui a inspiré, qui est devenu aussi la base de la sélection espagnole, qui a réussi un triplé, parce que Barcelone jouait de cette façon-là, l'Espagne, avec les titulaires clés du Barcelone, a apporté ce style-là, et l'Espagne est devenue le triplé champion en combinant Euro, Coupe du Monde, Euro, et tout ça est venu par cette vague-là initiée par Pep Guardiola.
On a parlé du coach de la décennie, selon toi. La dernière décennie également aura été une décennie de rivalité pour deux joueurs en particulier. Et toi, plus particulièrement, tu veux nous parler de la décennie de Messi.
Ouais, Messi est arrivé, avec l'étiquette du prochain Maradona. Il avait gagné la Coupe du Monde U20 en 2005. En 2006, je veux dire, il était trop jeune pour être vraiment un titulaire. Puis c'est vraiment pendant la décennie où que Messi, au niveau de la sélection, a eu son opportunité de finalement atteindre Maradona avec ce trophée-là, avec la sélection. Pendant ce temps-là, Ronaldo réussit à obtenir un premier trophée pour le Portugal et en face, tout le temps, le comparable, des fois un peu malsain. Messi, autant il réussissait avec Barcelone, autant avec l'Argentine, c'était des échecs. Il a perdu une finale contre l'Allemagne. Il a perdu deux finales en Coupe América. Et probablement, il lui reste encore des bonnes années, mais probablement, quand on va revenir sur la carrière de Messi, on va tout le temps lui ramener ce petit échec-là avec l'Argentine. C'est-à-dire comment probablement le meilleur joueur de l'histoire du foot n'aura pas réussi à obtenir le trophée le plus important, celui de la Coupe du Monde, ou d'obtenir du moins un trophée avec sa sélection. Il va tout le temps avoir cette ombre-là, tandis que Maradona, lui, aura réussi et son rival contemporain aura réussi aussi.
Tu vois, là, t'as parlé de Messi. C'est sûr qu'on va avoir au moins deux pages de messages textes ici qui vont rentrer sur la rivalité Ronaldo et Messi. On peut pas prononcer Messi ou Ronaldo en ne nommant pas l'autre.
C'est un peu dommage parce que, tu sais, c'est deux immenses joueurs contemporains. Ils sont probablement à l'opposé du style. Tu sais, on a un artiste en face, on a une machine athlétique. Et on a tout le temps voulu, tu sais, veux pas, la rivalité Real Madrid et Barcelone est venue amener ça. Mais, tu sais, le fait d'obtenir un trophée avec sa sélection, ça va devenir éventuellement un ombrage. C'est sûr et certain qu'à chaque fois, on va dire oui, mais Messi n'a jamais gagné.
Une décennie est bien sûr marquée de conquêtes, de titres et de surprises. Et pour ce qui est du championnat anglais, ben on n'a pas le choix de parler de cette surprise de Leicester qui a été vraiment le choix le plus payant pour certains qui sont encore riches en raison de ce choix il y a quelques années.
Oh oui. C'est le champion le plus improbable du foot contemporain anglais. Il y a des bookies qui donnaient Leicester avec une décote de 1000, de 2000, jusqu'à 5000 pour un pour devenir champion. Puis si on se met un peu dans le contexte de l'époque, en 2015, l'année précédente, Leicester s'était sauvé de la relégation d'environ 6 points. Et les 10 années précédentes, ils étaient dans les divisions inférieures en D2 et en D3. Donc ça faisait 10 ans qu'ils n'étaient pas en première ligue. Ils arrivent là et rendus à Noël, ils sont champions. Tout le monde attend que Leicester débarque. Une ligue qui a été dominée essentiellement par les top 6, là, c'est-à-dire les deux Manchester, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham. Même Tottenham avait un peu de misère à percer ce 6-là. Et là, il arrive cette équipe-là un peu de nulle part, qui garde cette première position et qui finit finalement champion. Et c'est tellement improbable. Il y a un joueur qui est vraiment la figure de proue de cette équipe-là, Jimmy Vardy, l'avant-centre anglais. Il avait commencé le siècle là, en 2010. Il jouait en 7e division en Angleterre. C'est un joueur qui jouait du semi-pro dans un Bury League. Il arrive dans cette saison-là, il en plante autour de 25 buts. Il devient l'avant-centre même de la sélection anglaise. Et tout le monde cheer derrière Leicester parce que c'est l'ultime histoire de l'équipe Cendrillon qui va battre tout le monde. Et cette équipe-là était vraiment pas vue comme une menace réelle. Tout le monde attendait le moment qui tombe. Il y avait même un commentateur qui a probablement inspiré Vincent Destouches avec Novillo. Il avait promis à Noël que si jamais Leicester devenait champion, il allait commenter un match au complet en bobette. Non, ça a été un bon coup de marketing.
Pas mal, ouais. Quand on fait des bilans comme ça également, on revient tout le temps, on parle d'Euro, on parle de Coupe du Monde. T'as choisi la Coupe du Monde et le Brésil également.
Ouais. Habituellement, quand un match de foot a sa propre page Wikipédia, c'est soit un très bon signe, ouais, soit c'est un très mauvais signe. Dans ce cas-là, c'était un très mauvais signe. Dans le contexte de l'époque, en 2014, le Brésil reçoit finalement une Coupe du Monde. C'est l'obsession nationale, le Brésil qui veut absolument gagner une Coupe du Monde chez elle. On ramène Scolari, le sélectionneur qui avait bien fait avec le Portugal. À l'époque, il y a un jeune Neymar au début vingtaine. Le Neymar, c'est le prochain Ronaldo, le Ronaldo brésilien. Il y a beaucoup de pression sur lui. Et le Brésil, à ce moment-là, n'avait pas un tournoi extraordinaire, mais ils avancent tranquillement, arrivent en quart de finale. Neymar se blesse, une fracture dans le dos, quelque chose de terrible. La carrière du joueur, à ce moment-là, est peut-être un peu compromise. On doute pour son avenir. Le Brésil vit un choc et arrive la demi-finale contre le futur pays champion, l'Allemagne, et catastrophe totale. C'est une défaite de 7-1. Dans les 10 premières minutes, il y a déjà un but. 30 minutes plus tard, ils perdent déjà 5-0. Puis c'est une équipe en face qui force quasiment pas là, tout ce qu'ils essayent. Ça fonctionne. C'est la désolation. C'est devenu une honte nationale. Ça rappelle un autre épisode noir du Brésil autour dans les années 50 où ils perdent la finale contre l'Uruguay chez eux au Macarena. Là, ils perdent ce match-là de façon honteuse et c'est la une de tous les journaux le lendemain. Il y a des titres chocs et ça finit même avec cette journée-là est devenue mémorable et porte un surnom, le Minérescent, qui en l'honneur du stade de Mineirão. Donc c'est devenu un terrible choc pour le Brésil. Le Brésil a beaucoup de misère à s'en remettre aussi. Il y a un changement de philosophie. Depuis ce temps-là, le Brésil se cherche. Il vague entre du football pragmatique, mais un peu plate, et du football un peu champagne de l'époque dans un passé plus glorieux. Ça a marqué les esprits et tranquillement, pas vite. L'Allemagne a terminé avec ce triomphe du titre de 2014 qui était censé être le tournoi du Brésil.
Et en terminant, Nelton, les gens se posent la question, mais où est l'impact de Montréal dans ce top 5 de la dernière décennie?
J'ai hésité, là. J'ai dit, est-ce que je parle de mon Portugal? Ou je parle finalement de ce qui importe le plus au niveau québécois? On peut pas, c'est sûr que c'est pas un événement planétaire, mais pour notre monde local, pour le foot local, la Ligue des champions 2015 a vraiment marqué les esprits. Il y avait déjà eu une histoire précédente avec la Ligue des champions pré-MLS, mais ce moment-là, ça a été des moments mémorables. Il y a le fameux but de Porter dans les arrêts de jeu avec la bombe de Marlus en quart de finale. On se retrouve finalement en finale, le match aller au Mexique, on réussit à obtenir un match nul avec un but de Piatti, on revient à la maison devant 60 000 personnes, on y croit, finalement on va avoir un club de la MLS qui pourrait devenir champion de la Ligue des champions, puis ce club-là serait montréalais, on marque rapidement un but, celui de Romero, et là, après la mi-temps, on se prend un but, deux buts, trois buts, notre capitaine Bernier est sur le banc, tout le monde se demande quand est-ce qu'il va embarquer parce qu'il y a un Malus sur le terrain qui semble dépassé, il y a un Donadel qui semble déjà fatigué, et ça a été un peu la désolation locale où on passe tout près du titre devant 60 000 personnes, on perd cette finale-là, mais c'est devenu tellement marquant la suite parce que suite à cet événement-là, quand à chaque fois qu'on va chercher un joueur, que ce soit Drogba ou quand on est allé chercher Thierry Henry, tout le monde dans le planète foot nord-américain se rappelle de ce moment-là où un club de la MLS est passé à peut-être à un but d'obtenir ce titre-là ultime.
Ça a été des choix déchirants pour toi, mais ça a été un beau portrait de ce qui s'est passé. Et puis, j'imagine que tu vas recevoir des messages haineux là, de la part de gens qui disent que tu as oublié tel ou tel événement. C'est normal. Ça vient avec la job. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, Nelton. Je trouve que c'est du beau travail. Je te donne un A.
Bien.
Comme note.
C'est bien, je vais pouvoir partir en vacances tranquille.
Bon, tu pars en vacances quand?
Oh mon Dieu, vendredi.
Vendredi?
Voilà.
C'est bien, on va voir. On sait jamais, tu sais, s'il y a un contrat qui signe chez l'Impact d'ici à vendredi, peut-être qu'on va se reparler.
Ben oui, je vais être là dans la minute d'après.
Nelton, merci beaucoup. Si on n'a pas la chance de se parler avant, passe un joyeux temps des fêtes avec ta famille et merci d'être collaborateur à l'émission.
Un gros merci à vous tous aussi.
Merci beaucoup, Nelton George, qui revenait sur ce bilan, ce top 5 de la dernière décennie dans la planète soccer. On va aller en pause au retour, c'est le temps.